Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de l'émission Dialogue et Partage, produite par le collectif Dialogue et Partage, au micro Sarah Brébard, et avec nous en studio, Isabelle Durand, sénatrice et membre du triumvirat, on peut dire, du secrétariat vétéran. C'est-à-dire Jean-Michel Javot et vous, et M. Bruyre a disparu.
Il n'a pas disparu, mais il est devenu secrétaire général, et donc il s'occupe, comme il s'en occupait avant d'ailleurs, de toutes les questions de sous, de gestion, etc.
Voilà. Alors, et Corinne de Parmentier, qui est venue très souvent, je pense, au micro de Radio Judaïca dans d'autres émissions. C'est la première fois chez nous. Bonsoir. Madame de Parmentier, vous êtes députée fédérale, présidente des femmes réformatrices OMR. C'était bien ça. Voilà. Alors, avant d'entamer notre émission, je voudrais. Nous avons toujours un personnage de la semaine. Cette semaine, nous avons décidé qu'il y en avait deux. Alors, il s'agit de Serge Fosso et de Ebenezer Sonsa, qui ont été liés par le hasard et liés par le courage. Voilà. Alors, Ebenezer Sonsa est un Camerounais sans papier, qui a été l'objet d'une tentative d'essoufflement de la part des policiers belges à bord d'un vol de SN Brussels Airlines, une méthode qui avait d'ailleurs conduit à la mort de Semira Adamou voici 9 ans et qui avait révolté la Belgique. Alors cette méthode semble toujours d'application. Un homme courageux assiste à la scène, il s'appelle Serge Fosso, et tente de s'interposer. Il est aussitôt expulsé manu militari de l'avion et puis victime d'une série de sanctions de la part de Sabena SN. Vous trouverez le détail de ces sanctions sur le site mesopinions.com/solidaire avec Fosso. Ebenezer Sonsa est mort le 2 mai au centre fermé de Merckplatz. Alors on voudrait savoir comment il est mort, qui avait la responsabilité de sa personne quand son décès est survenu, et comment se fait-il que la SN est complice toujours de ces expulsions qui ressemblent à des enlèvements et à des rapes. Alors excusez-moi, moi j'ai beaucoup de bruit dans le micro, je ne sais pas si on entend ça sur les ondes, mais c'est pas très agréable. Donc, à partir de quand un étranger est-il indésirable? Quel est le critère? Pourquoi ne pas imaginer une politique d'asile plus solidaire qui s'accompagne du prise en charge morale en offrant de réelles possibilités d'intégration? Au lieu de penser que nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde, les étrangers viennent pour partager notre gâteau, est-ce qu'on ne pourrait pas au contraire se dire qu'avec les étrangers, le gâteau serait peut-être plus gros et qu'ils apportent leur force de travail, leur dynamisme et leur courage? Car, rappelons-le, on l'a déjà expliqué ici, il en faut pour tout quitter. C'est donc notre égoïsme qu'il faut interpréter, et nous, membres de la communauté juive qui avons été, et dont les parents, les grands-parents ont été accueillis dans ce pays, savons à quel point la condition de réfugié peut être douloureuse. Alors je voudrais terminer par cette citation de Karl Jaspers, un philosophe allemand qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avait écrit un livre formidable qui s'appelait « La culpabilité allemande ». Et cette citation de Jaspers, que vous pouvez lire d'ailleurs sur le site de Solidaire avec Fosso, sur le site de mesopinions.com, « Il existe entre les hommes, du fait qu'ils sont des hommes, une solidarité en vertu de laquelle chacun se trouve co-responsable de toute injustice et de tout mal commis dans le monde, et en particulier de crimes commis en sa présence ou sans qu'il les ignore. Si je ne fais pas ce que je peux pour les empêcher, je suis complice. Si je n'ai pas risqué ma vie pour empêcher l'assassinat d'autres hommes, si je me suis tenu quoi, je me sens coupable, en un sens qui ne peut être compris de façon adéquate, ni juridiquement, ni politiquement, ni moralement. » Alors voilà, je vous engage à signer la pétition en faveur de M. Fosso qui se trouve sur le site de Mes Opinions, barre solidaire avec Fosso. Alors, je vous recommande d'aller voir aujourd'hui, pour changer de sujet, le musée de la photo qui vient d'inaugurer, qui vient d'être rénové, dont nous avons beaucoup parlé ici, et au cinéma Eldorado de Boudi Naner, c'est un film drôle, du mouvement. Il s'agit surtout d'une réflexion sur le lien social, sur la solitude, sur la générosité, sur l'amitié. Alors l'amitié, ses emballements, ses déceptions, où on voit que l'amitié est difficile, peut-être plus difficile que l'amour, parce que dans l'amour, on partage tout, il n'y a pas de no man's land, dans l'amitié, justement, cette frontière qui sépare le corps du reste, cette frontière qui gêne un voile pudique sur un intime jamais partagé, est-ce qu'elle n'inscrit pas d'emblée l'amitié dans un champ secret, source de toutes les surprises et des emballements comme des déceptions? Rendez-vous donc devant Eldorado au cinéma. Voilà, alors nous allons aborder le thème de l'émission d'aujourd'hui. Qui n'est pas sur la vidéo de la séance de Nivelles exactement, mais enfin, en tout cas, qui veut un petit peu examiner les poncifs qui sont derrière cette vidéo. J'imagine que vous avez vu Isabelle.
Oui, bien sûr, évidemment.
Alors, je vais montrer une photo de cette vidéo pour remettre un peu les choses en mémoire. Où on voit, un soldat, soi-disant un soldat israélien, qui ressemble, enfin, qui a une méthode un peu brutale, on va dire, et qui chasse les réfugiés palestiniens. Enfin, joué par des acteurs, bien entendu, c'est une sorte de répétition de la Nakba qui s'est jouée dans les rues de Nivelles. Alors, moi, je suis, bon, on va parler plus tard de Thérèse Noy, mais disons que ce qui m'intéresse à travers cette Nakba telle qu'elle est montrée, et c'est de démonter un peu les mythes qui sont fort véhiculés, aussi bien dans les médias que chez certains membres de notre population. Par exemple, au sujet de l'expulsion. On a d'ailleurs lu récemment une carte blanche disant les Palestiniens ont été expulsés, ils ne sont jamais partis d'eux-mêmes. Alors quand on fait quelques recherches sur Internet dans la presse arabe, par exemple, on voit bien que, au contraire, des leaders locaux, on ne parle pas des leaders, des grands chefs d'État, mais qu'en tout cas des leaders locaux ont clairement demandé aux habitants de partir et même de considérer que c'était une traîtrise de rester. Et à cet appui, je vais citer Benny Morris, qu'on utilise souvent dans l'autre sens, puisqu'il donne ici, à propos de Raïfa, par exemple, il dit ceci, je vais citer tout, comme ça on ne va pas me dire que je caviarde, il est exact, comme l'a fait remarquer Erskine Childers il y a longtemps, qu'il n'y a pas eu de message radiodiffusé arabe pressant les Arabes de fuir en masse. En fait, il y a eu des messages diffusés par plusieurs stations de radio arabes les appelant à rester sur place. Mais au niveau local, dans des dizaines de localités de Palestine, des dirigeants arabes conseillèrent ou ordonnèrent l'évacuation de femmes et d'enfants ou de communautés entières, comme cela se produisit à Raïfa fin avril 48. Le 22 avril, le maire de Raïfa, Shabtai Levi, parlementa avec eux pour qu'ils restent sans résultat. Alors voilà, je voulais vous inviter à commenter, parce que dans l'esprit des gens, est-ce que, évidemment, comment on comprend les choses, les Israéliens, enfin les Juifs à l'époque, ont chassé les populations arabes? Alors, qu'est-ce que vous comprenez là-dessus?
D'abord, je, par rapport à la fois aux faits, moi je ne suis pas historienne, et en même temps, je suis ouverte à entendre, et vous le faites très bien, je crois, à rappeler des nuances, parce que dans tout fait historique, il y a toujours des nuances. Et donc, en effet, je sais ou je crois savoir qu'il y a à la fois des gens qui ont été expulsés, mais d'autres qui sont partis d'eux-mêmes pour diverses raisons. Donc moi, je ne vais pas ici faire l'historienne de ce fait. Je sais en tout cas que c'est évidemment un moment très douloureux et très difficile. Et je sais aussi que l'action qui s'est passée à Nivelles la semaine passée, ou plus exactement la mise en scène, moi, je n'ai rien à voir avec ça. C'est une association qui a fait cette mise en scène. Je la trouve d'ailleurs sur la forme, et je ne parle pas du fond ou du point de vue qu'on peut développer autour de ça, mais sur la forme, franchement, je la trouve un peu douteuse. Mais pour moi, la question, et on y viendra après, donc je vous réponds d'abord à votre première question, donc la forme, je la trouve un peu douteuse, je trouve que dans tous les cas, a fortiori pour cet événement-ci, qui est douloureux, qui est difficile, le représenter de cette façon-là n'est peut-être pas la manière la plus habile pour essayer que, aussi, un dialogue reste ouvert entre l'ensemble des communautés et des personnes. Donc, je trouve que c'est un peu maladroit, et que, en plus, dans la rue, quand les gens sont interpellés comme ça, c'est pas dans une pièce de théâtre, dans une salle fermée, c'est encore autre chose. Dans la rue, ben, on ne peut pas s'y soustraire. Donc voilà, je ne suis pas cette association, même si je partage certains points de vue pour une paix juste au Moyen-Orient, mais j'espère qu'en tout cas ici, nous partageons tous les trois, et bien d'autres autour dans cette maison. Mais donc voilà, moi je trouve que la forme était un peu douteuse, mais quoi qu'il en soit de cette forme, mais on y reviendra après, il y a des choses qui étaient dites alors qu'elles posent aussi problème, et j'y viendrai après.
Alors pour les auditeurs qui prennent l'émission en route, je rappelle que c'est Mme Isabelle Durand qui vient de s'exprimer, et qui donc se désolidarise totalement de la manière dont la mise en scène a été montée à Nivelles. Corinne de Parmentier, vous avez fait.
Comme le disait Isabelle Durand, je ne suis non plus pas historienne, seulement je reviens d'un voyage en Israël. Je suis rentrée à Bruxelles lundi dernier, où j'ai pu me rendre à Yad Vashem, où j'ai pu rencontrer un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem qui nous a fortement documenté. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, et il faut savoir qu'on n'a pas donné en 1948 la terre d'Israël au peuple juif simplement suite à la Shoah, mais que c'est un processus très long dans l'histoire. Il faut savoir que cette terre qui était partagée à l'époque par les Arabes et par les Juifs était partagée en parfaite symbiose et qu'à un moment donné, des Juifs se sont retrouvés là-bas. Il y avait également des Arabes et on a demandé aux Anglais de venir là pour essayer de trouver une solution au partage. À un moment donné, on a eu tous les prémices de la Deuxième Guerre mondiale, et je ne suis pas historienne, on me l'a expliqué, où on a demandé à un moment donné à la conférence d'Évian quelle était la position de l'Europe, des États-Unis, de l'Australie et même des pays de l'Amérique du Sud concernant l'immigration et notamment la problématique de la montée de l'antisémitisme en Europe. À ce moment-là, personne en Europe, personne aux États-Unis, personne en Australie n'a voulu accueillir le peuple juif. Et le peuple juif s'est trouvé très très mal mis, il faut le savoir. Seulement, à cette époque-là, l'Amérique du Sud voulait bien accueillir les juifs à condition qu'ils devenaient catholiques, il faut le rappeler aussi. Donc vous imaginez dans quelle solution on s'est retrouvé. Donc nous avions ici et partout en Europe un peuple juif qui voulait rejoindre la Palestine à l'époque, et qui n'a pas pu, parce qu'on les a empêchés de rentrer. Et puis Hitler a profité de toute cette occasion pour faire ce qu'on a vu comme horreur au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Alors moi, je dis qu'il n'y a pas eu d'abandon, de vol de terre. Je crois aussi savoir qu'on a poussé à un moment donné les Arabes à s'en aller de Palestine alors qu'ils vivaient parfaitement en symbiose, je tiens à le rappeler, et que quand aujourd'hui on va à Jérusalem, on voit aussi bien les Arabes et les Juifs parfaitement cohabiter ensemble. Il n'y a pas de tension, il ne faut pas non plus tout essayer de stigmatiser. Moi, je vois ici qu'en Belgique, en tout cas, on essaye de monter un groupe contre l'autre. Et ce que nous voulons, c'est bien sûr la paix au Proche-Orient. Et on voit les avancées de la ministre Livni qui fait d'énormes progrès pour y arriver. Et donc, ici, on essaye toujours de montrer du doigt le peuple juif. Et je ne peux pas apprécier qu'on ait accepté de faire à Nivelles une telle mascarade où on a pris en otage les habitants de Nivelles, les enfants, les commerçants qui restaient là ébahis sur le perron en se demandant ce qui se passait, en stigmatisant l'image d'Israël, en voulant montrer une forme de brutalité. Et je dirais simplement, pour clôturer mon intervention, c'est que même en Belgique, les médias ont toujours tendance à donner une image négative d'Israël. Et je trouve que c'est à nous, politiques, d'essayer de remettre les choses à leur juste place pour justement avoir un dialogue et pouvoir aller vers un processus de paix, et certainement pas de stigmatiser l'un par rapport à l'autre.
Donc en fait, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que vous êtes en fait toutes les deux d'accord sur le fait que la manière dont l'expulsion des Palestiniens a été organisée dans cette mise en scène par cette organisation qui s'appelle Paix Juste pour le Moyen-Orient, qui n'est pas encore très connue.
Oui, voilà. Je parle bien de la forme. Je crois que la forme était en effet choquante. Et dans les images, on le voit. On voit des gens qui sont étonnés. On voit des choses qu'on ne comprend pas. Et on imagine bien que n'importe quelle situation qui serait mise en scène de cette façon-là pose difficulté. Ce qui n'enlève pas, justement, à cette association, dans ce qu'elle fait par ailleurs, à vouloir développer une paix juste et durable. Je pense simplement que l'instrument n'est pas le bon. Si on veut une paix juste au Moyen-Orient, peut-être que le chemin choisi dans le type d'action qu'on mène n'est peut-être pas le meilleur chemin.
Isabelle, je te convainc pleinement, mais quand on dit que cette association veut promouvoir une image de paix, c'est tout son contraire. Je suis désolée, parce qu'on prend des acteurs
qu'elle prétend. C'est ce qu'elle dit.
Elle prétend, mais c'est pas ça qu'elle véhicule réellement sur le terrain.
C'est ce que... L'image est malheureuse, le choix de la mise en scène est assez contre-productif.
Oui, mais elle met en scène
quelque chose, mais en le mettant en scène, en pleine rue, de cette façon-là.
Et des mythes aussi, et des mythes, parce que le mythe, je veux dire, l'expulsion des réfugiés, il y a eu par endroits ça s'est passé, mais ça n'a pas été général. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà des conflits meurtriers, des conflits armés déjà en novembre 47. Et que donc, bon, quand on est dans un conflit comme ça, évidemment, c'est vous ou c'est l'autre. Donc, il y a évidemment eu dans certaines situations, c'est ce qu'on a appelé l'application du plan d'alerte, parce que, voilà, tout État né dans des convulsions, et je pense qu'évidemment, Israël n'a pas échappé, mais déclarer qu'elle a, comme le montre cette sénette, systématiquement fait une politique d'expulsion, je crois que là, c'est évidemment un abus historique et malheureusement, qui est souvent pris pour une réalité. Alors la deuxième mythologie, moi qui me dérange aussi très fort dans cette mise en scène, c'est de montrer des Israéliens qui ont la férocité des soldats nazis. Alors il y a tout de même des chiffres. Si on prend les guerres du Congo, qui entre 1998 et 2003 ont fait 3,5 millions de morts, et si on prend l'intifada qui depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui 2008 a fait à peu près 3,000 morts palestiniens, je pense que la férocité des soldats israéliens qu'on met en scène, c'est tout de même un petit peu douteux. Je veux dire,
Moi, je vous dis, du théâtre action pour sensibiliser les gens à une question, le faire en simulant mal, ou pas très très bien, ou pas très habilement, des scènes qui sont dans lesquelles on ne peut évidemment pas, avec lesquelles on peut penser dans l'alliance, puisqu'on montre un méchant et un gentil. Alors, quand on montre un méchant et un gentil, une victime et un agresseur, par définition, on ne parvient pas à mettre en évidence les nuances d'un problème et surtout les suites, parce qu'après, il faut.
Voilà, exactement.
Et donc, je trouve qu'en ce sens-là, et sans mettre du tout en doute l'intention première, mais je pense qu'il y a une maladresse dans la manière de mettre en scène un problème qui demandait bien autre chose que des bons et des méchants, même s'il y a eu des brutalités, certainement, et il y a eu aussi des gens qui sont partis d'eux-mêmes, mais la nuance implique de travailler peut-être un peu différemment, surtout quand on est en rue et qu'on s'adresse à des gens.
Voilà.
Qui n'ont rien demandé, qui ne connaissent rien du problème.
Parce qu'un troisième concept qui était mis en route et qui était évidemment très choquant, parce que je pense que ça n'a jamais été à ce moment-là, on voit les Palestiniens qui crient « c'est notre Terre Sainte, c'est la Terre Sainte, c'est la Terre Sainte ». On sait que c'est un concept juif. Les Palestiniens n'ont jamais considéré la mosquée Al-Aqsa à elle valeur de sanctuaire, mais je veux dire, ils n'ont jamais parlé pour eux de Terre Sainte. Donc on joue comme ça sur des mots et des concepts qui sont cher aux juifs, sans beaucoup d'égards pour la sensibilité de la communauté juive. Est-ce que ça ne peut pas être pris en compte, ça? Parce que, en fait, dans quoi ça prend sa place, ce genre de scène, dans une campagne qui s'appelle 60 ans de dépossession? Alors ça c'est grave.
Sarah, moi ce que je voudrais vous dire, ce que je trouve répugnant dans ces images et dans ce qu'on a voulu véhiculer, c'est les enfants qui regardent ça. Vous savez, moi j'étais bourgmestre d'une commune où ces deux communautés vivaient en harmonie, vivent toujours en harmonie, et je pense que nous avons un rôle important pour que les jeunes apprennent à mieux se connaître. D'ailleurs, ce serait assez nécessaire, je crois, de donner dans les écoles des cours des religions pour que les enfants soient documentés, sachent ce qui s'est passé au niveau de leur histoire et au niveau de l'histoire du pays. Et quand des enfants voient des images pareilles, vous montez un groupe qui va s'opposer à l'autre. Et là, c'est très très dangereux. Donc je pense qu'on doit pouvoir, en tant que responsables communaux, prendre des mesures pour ne pas permettre sur les territoires communaux ce genre de parodie, de mascarade qui est de très mauvais goût, qui véhicule dans les médias, sur l'internet, des petits films qui sont vus par les plus jeunes, et les plus jeunes peuvent prendre ça pour argent comptant.
Mais justement, il y a à ce propos, quel est le travail qu'on peut faire pour que les choses ne soient pas réduites à un aspect purement manichéen, hein?
Mais enfin, moi, je prends par exemple, je pense que beaucoup d'initiatives existent, heureusement d'ailleurs, et qui incitent à la connaissance, à la compréhension, au dialogue. Et je prends par exemple celle que mon collègue Christos Zoukeridis a organisée au Parlement bruxellois francophone, en mettant ensemble, comme on sait qu'à Bruxelles, on a aussi une population de jeunes plutôt d'origine arabe, qui ont parfois une connaissance un peu sommaire et avec lesquels il est très utile évidemment de refaire l'histoire, de raconter, de les emmener à Auschwitz, de voir les choses, de permettre de comprendre un conflit, surtout pour ces jeunes qui ont finalement comme seule image de leur propre communauté, et j'aime pas trop les mots communauté parce que pas plus pour les arabes que pour la communauté juive, il y a comme ça une communauté
évidemment,
la même chose. C'est un petit peu là aussi manichéen de croire que. Mais pour beaucoup de ces jeunes-là, je pense que justement les images qu'ils ont de ce qui se passe dans leur pays d'origine ou dans des pays d'origine sont souvent des images très négatives. Et donc je crois qu'il est utile et nécessaire que on entretienne et qu'on soutienne activement toutes les initiatives prises par les pouvoirs publics, prises par des organisations, associations privées, qui permettent à la fois le dialogue. Et je suis d'accord avec Corinne que la question d'un cours d'éducation aux religions, parce qu'il y a aussi un aspect culturel, il y a un aspect religieux, ce sont deux choses à la fois communes et différentes, c'est toute la complexité, parce que tout est compliqué entre la croyance et la foi d'une part, et l'autre part l'appartenance à un groupe, et dans ce groupe avec toutes sortes de sous-groupes, ou même pas de groupe du tout, d'individus, mais tout cela nécessite justement d'être appréhendé avec nuance. Et donc je crois qu'il y a les initiatives, il faut les soutenir, et tout ce qui est fait pour rapprocher, pour faire dialoguer, et a fortiori à Bruxelles, où on a une population très mélangée, et éventuellement parfois qui vit dans des quartiers où les choses sont parfois un peu explosives, on a tout intérêt à soutenir le dialogue, et en tout cas, c'est toujours de ce côté-là que vous trouverez les écologistes.
D'accord, mais ici, elle s'est un peu trompée, Thérèse.
Alors, Thérèse, elle s'est un peu trompée. Je pense que
j'ai vu son CV, elle n'a absolument aucune expertise sur le Moyen-Orient.
Donc, je pense qu'en fait, elle est de bonne foi, mais bon, elle a participé à une action qui était, je l'ai dit et je l'assume pleinement, que je trouve malhabile sur la forme. Je pense que là où il y a une difficulté, c'est sur les termes qu'elle a utilisés. Quand elle a parlé de groupe juif, je pense qu'elle n'a pas mesuré que quand on dit groupe juif, on laisse entendre, elle n'avait qu'à dire le CCOJB, puisque, moi j'étais pas à Nivelles, je n'en sais rien, mais peu importe est-ce qu'il y a eu ou pas, et ça, c'est pas mon problème, éventuellement des remarques, des pressions, je ne sais quoi, pour que la manif ait lieu ou pas lieu, alors on nomme celui qu'on considère comme étant, éventuellement ou pas, j'en sais rien, j'y étais pas, celui qui a dit, je ne veux pas cette manifestation, ou pas comme ci, ou pas comme ça, ou pas cette forme-là. Alors on nomme, et quand on nomme les choses, et qu'on nomme les gens, on peut éventuellement être en désaccord. D'ailleurs, moi, je ne suis pas sûre qu'on est d'accord sur tout, toutes les trois, ici, sur un... Mais c'est très bien, tant mieux. Mais là où on commence à faire un amalgame en disant groupe juif, je pense que là, on laisse sous-entendre qu'il y aurait une espèce de, je sais pas quoi moi, de communauté, de groupe,
de lobby.
Alors, en termes de lobby, si on parle de lobby juif, moi, je vais vous dire, j'ai été ministre pendant 4 ans sous le gouvernement arc-en-ciel. Et je le disais ici en entrant tout à l'heure à quelqu'un avec qui on discutait de cet événement, le lobby juif, s'il existe, moi je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu parce qu'à l'époque, on a beaucoup travaillé justement sur des questions compliquées, sur la question de la restitution des biens juifs, etc. J'ai entendu des paroles bien légitimes d'ailleurs, et très différentes parfois, de certaines personnes ou certains groupes qui faisaient entendre leur voix, ce qui est normal dans un dossier démocratiquement, et quand on vit en démocratie. Mais moi, excusez-moi, mais le lobby juif, je ne sais pas très bien ce que c'est. En tout cas, je ne l'ai jamais rencontré. Alors s'il existe, qu'on me le montre, mais moi je ne l'ai pas rencontré.
Ben voilà, ça je pense que c'est une mise au point tout à fait utile et nécessaire. Et peut-être que... Mais alors moi je voudrais revenir justement sur quand on parle de pression. Quand le CCOJB demande au bourgmestre de Nivelles de ne pas permettre cette manifestation...
Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Parce que Valérie Debu, qui est échevin à Nivelles et qui travaille avec moi au Parlement fédéral, m'a expliqué l'histoire. Donc il y a eu une demande pour pouvoir faire une manifestation sur le marché Nivelles. Et puis les autorités communales ont dit, ben, pourquoi pas, c'est une association, on va lui donner un stand. Puis ils ont su le scénario et ils ont vu de quoi il retournait. À ce moment-là, évidemment, il y a des gens qui se sont mis dans une situation d'émoi, ont contacté les autorités communale en disant qu'est-ce qui va se passer. Et la commune a dit on ne va pas tomber dans une mascarade et on ne va pas tomber non plus dans une pièce de mauvais goût. Et puis tout le monde a commencé à jouer à gauche, à droite pour essayer de trouver des relais pour dire la commune veut nous interdire notre liberté d'expression. Mais moi je dis il n'appartient pas aux communes d'importer ici en Belgique le conflit israélo-palestinien. Notre but ici est de permettre à tous les gens de vivre en harmonie et en paix, de documenter, de créer des passerelles au maximum dans les écoles et autres, et aussi de dénoncer les médias qui jouent parfois des rôles très dangereux. J'ai fait une question au Parlement sur le rôle des satellites ici en Belgique, Al Jazeera, qui fait des émissions d'appels à la haine juive, etc., qui peuvent aussi rameuter un grand nombre. Donc, l'objectif de la commune était de dire, vous voulez donner de l'information, c'est une chose, mais ça, c'est pas de l'information, c'est de la désinformation.
Isabelle Durand, moi, je voudrais...
comment dire, mesurer les conséquences pour un bourgmestre de permettre une chose pareille. Parce qu'en fait, à quoi ça fait penser? Ça fait penser au grand mystère de la passion qu'on jouait sur les parvis des Moyen-Âge. Et on a vu où ça a mené. On a eu l'Inquisition, on a eu 2000 ans d'anti-judaïsme chrétien. Donc, quand on demande à un bourgmestre, attention, soyez prudent, voilà ce qui va se passer. Et si on ne fait rien, si on laisse se répéter dans toutes les rues des communes de Belgique ce genre de choses, est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'à un moment donné, les gens vont réellement croire l'histoire telle que c'est net, un peu simpliste, la raconte, et que donc, de la part, je ne veux pas excuser la manœuvre du CCOJB ou enfin la démarche, mais est-ce qu'il faut interpréter ça comme des pressions? Est-ce qu'on ne peut pas aussi simplement voir ça comme une alerte en disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Donc, moi, je ne sais pas me prononcer sur ce qui s'est réellement passé à Nouvelle puisque je n'y étais pas. Donc, c'est difficile, surtout dans ce cas-ci, je n'ai pas envie de dire des choses que je ne sais pas, pour qu'au fond, alors voilà.
Non, mais je veux dire,
de manière générale, voyons de façon générale, je pense que les communes permettent, lors de manières d'action, de marché, etc., des stands d'information, et je pense qu'elles doivent le faire, et elles doivent pouvoir permettre la plus large liberté d'expression, y compris avec des choses
avec lesquelles
on n'est pas d'accord. Je pense que ça, c'est très important. Par contre, je pense aussi que la forme doit être soignée, et donc un bourgmestre, par exemple, je l'espère, n'accepterait pas un stand du Vlaam Belang ou du Front National ou de je ne sais pas quoi, moi, ou d'un groupe extrémiste ou d'un groupe qui prône le racisme ou l'antisémitisme ou Dieu sait quoi. Donc ça serait normal qu'il le refuse, et quelque chose qui a priori semble bien intentionné mais éventuellement dans sa forme amène des problèmes, je pense que c'est vrai que c'est pas si simple et que c'est pas nécessairement une bonne idée. Comme je disais tout à l'heure, quand on va voir une pièce de théâtre, quand on va dans une salle où il y a une introduction, un débat après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas la même démarche que quand on est sur un marché où on s'adresse à un public qui est là et qui, je dirais, passivement ou activement entend et est témoin de choses sur lesquelles il n'a pas beaucoup d'informations autres. Et donc, je pense que là, il y a une responsabilité. Moi, je ne peux pas juger pour Nivelles parce que je n'y étais pas, je ne connais pas les conditions. Mais de manière générale, il y a une responsabilité, c'est vrai, à ce qu'on ne permette pas nécessairement tout et n'importe quoi, mais qu'on soit très attentif à la liberté d'expression. Sa forme doit être soignée, son principe est souverain, sauf l'extrême droite et les extrémistes. Mais par contre, les formes doivent être soignées pour ne pas être contre-productives.
Mais on voit bien que ça va quand même au-delà des formes, puisque ça met en route des concepts tout de même assez brûlants, comme la version entre guillemets historique ou non historique de l'expulsion des Palestiniens, la brutalité soi-disant de...
Sur des questions comme celle-là, où on a besoin de nuances, où on a besoin de... Pour expliquer, c'est vrai que montrer quelque chose en noir et blanc, c'est pas nécessairement une bonne idée.
Je pense que Joël Rodenfeld a joué son rôle à partir du moment où il avait eu vent du scénario assez déroutant qui allait se dérouler là-bas, ben il a dit qu'il serait présent. Et il a vu, et moi je pense que ce qu'on a vu, ce sont des images très choquantes. Donc moi je pense que le président a joué son rôle.
Ceci dit, Corinne, je pense que, donc je ne viens pas sur la partie que je ne connais pas, ou pour laquelle je n'étais pas présente, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de l'autre côté. Il y a eu là, manifestement des maladresses, y compris de Cérès Noir. Mais par contre, là où il ne faut pas se tromper, c'est que si des positions, et là il y a un peu, il y a amalgame, autant il y a eu amalgame en parlant gros juif, c'est vraiment pas très malin, hein. C'est une erreur, et je pense que au nom des colos, ceux qui ont interprété ça comme de l'antisémitisme, je le regrette profondément, et je présente même des excuses, parce que je pense que c'est pas du tout la
question. Voilà, merci beaucoup, Madame Durand.
C'est clair. Par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus que, quand on a des idées différentes, que ceux qui sont éventuellement antisionistes ne sont pas nécessairement des antisémites. Et je crois que là, il faut être attentif. On peut avoir des points de vue différents sur la politique d'État d'Israël, à des moments de l'histoire, y compris aujourd'hui ou demain. Et donc, je crois que là, on doit faire attention. Ce qui se passe dans cette région du monde est extrêmement difficile, est quelque chose qui est... Des gens vivent des situations inhumaines. Moi, je suis désolée et catastrophée quand je vois la situation pas mal de Palestiniens. Je vois aussi les souffrances ou les difficultés qu'endurent les Israéliens. Mais en tout cas, j'ai un point de vue à ce sujet, et je n'aime pas quand une position politique est prise sur un sujet, qu'on targue ceux qui sont qui n'apprécie pas la politique d'Israël, qu'immédiatement ils soient mis dans la case antisémite. Moi, j'ai beaucoup d'amis et dans ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la communauté juive, je crois qu'elle est diverse, elle va de la gauche à la droite en passant par... Et c'est normal, et heureusement d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus faire des amalgames en disant que tout qui n'est pas d'accord ou ne pense pas comme l'État d'Israël pense ou agit, elle devient immédiatement un antisémite. Ça, c'est une très, très ennuyeuse.
Non, on est simplement un peu interpellé quand ce n'est que contre l'État d'Israël. Tous les critiques, évidemment, se font. Alors, s'il n'y a que ce conflit-là qui interpelle les consciences, on a quand même un peu... Vous êtes d'accord avec moi que c'est un problème. Alors, je vous remercie toutes les deux d'être venues. Merci, Mme Durand. Merci, Mme de Parmentier.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà. C'était l'émission Dialogue et Partage au micro Sarah Brébard, produite par le collectif Dialogue et Partage. Bonsoir et à la semaine prochaine. Thank you.